Bienvenue dans cet épisode. Aujourd'hui, nous abordons une question simple, mais profondément inconfortable. À l'approche de 2028, le personnel politique congolais est face à un choix décisif, sauver la nation ou se sauver soi-même. Ce dilemme, mis en lumière par le docteur John Mususa Ulimwengu, peut à première vue sembler moral. Mais en réalité, il est bien plus profond. Il s'enracine dans des dynamiques structurelles, s'inscrit dans une trajectoire historique et relève avant tout d'un système qui façonne les comportements bien au-delà des intentions individuelles. À chaque cycle électoral, la même interrogation ressurgit : servir l'intérêt général ou instrumentaliser l'État comme un refuge personnel. Pourtant, la constitution congolaise ne laisse aucune ambiguïté. Le président est le garant de la nation, le symbole de son unité et le dépositaire de l'intérêt collectif. Mais entre cette exigence normative et la pratique du pouvoir, persiste un écart profond. Pourquoi ? Parce que l'environnement politique congolais transforme ce choix en pari risqué. Les ressources publiques sont rares, les mécanismes de sanctions demeurent fragiles et le coût de la compétition politique est particulièrement élevé. À cela s'ajoute une insécurité persistante et une confiance électorale profondément érodée. Dans un tel contexte, faire le choix d'un engagement loyal envers l'intérêt général ne va plus de soi. Il peut même apparaître, aux yeux de certains, comme une forme de naïveté. Le rapport du Centre Carter sur les élections de 2023 décrit un climat de défiance profonde. Et lorsque les règles du jeu perdent en crédibilité, la politique cesse d'être un espace de construction collective, elle se transforme en une arène de survie, où l'enjeu n'est plus de bâtir, mais de se préserver. Pour comprendre cette dynamique, il faut revenir à ses racines historiques. Un État fragilisé dès l'indépendance, un appareil administratif insuffisamment préparé, des décennies de gouvernance patrimoniale et des conflits persistants. Autant de facteurs qui ont durablement affaibli les fondations de l'État. Dans ces conditions, l'État cesse progressivement d'être perçu comme le garant du bien commun. Il ne représente plus une institution impartiale au service de tous, mais tend à être envisagé comme une ressource à capter, un espace à contrôler, voire un bastion à sécuriser face aux incertitudes politiques et sociales. Cette transformation du regard n'est pas anodine. Elle modifie en profondeur la manière dont les acteurs interagissent avec le pouvoir. L'État devient moins un instrument de régulation collective qu'un enjeu de conquête et de protection, où la logique d'appropriation l'emporte sur celle de service public. Dans un tel système, l'accès au pouvoir s'apparente à une forme de sécurité sociale de substitution. Occuper une fonction publique ne se limite plus à exercer une responsabilité institutionnelle. Cela ouvre l'accès à des ressources, à des réseaux d'influence, à des mécanismes de protection et à une capacité concrète d'agir dans un environnement incertain. Le mandat politique devient ainsi à la fois un levier d'action et un dispositif de sécurisation personnelle. Ajoutez à cela une économie fortement dépendante du secteur extractif, qui représente environ 46% des recettes publiques et la quasi-totalité des exportations. Cette configuration implique une forte concentration de la richesse, où le contrôle de l'État devient un moyen d'accéder directement à ces flux stratégiques. Dans ces conditions, la politique devient moins une question d'idées qu'une lutte pour contrôler les ressources. Et donc oui, dans ce système, se sauver soi-même devient rationnel. Mais voici le paradoxe. Ce qui semble être une stratégie de protection individuelle devient en réalité une machine à détruire la nation. Le mécanisme est simple. Quand l'État est capturé, les ressources sont détournées, les services publics se dégradent, les inégalités augmentent et la frustration sociale grandit. Puis survient la conséquence la plus redoutable, l'érosion de la confiance. Les élections cessent d'être perçues comme crédibles, la justice perd son autorité et l'administration voit sa légitimité s'affaiblir. À mesure que cette confiance s'effrite, d'autres formes d'organisation prennent le relais, la violence s'installe, l'informel s'étend et le repli identitaire devient un refuge. C'est un véritable cercle vicieux dont la logique est aussi simple que destructrice. Plus chaque acteur cherche à se protéger individuellement, plus le système dans son ensemble se fragilise et plus l'incertitude s'installe. Cette instabilité croissante rend alors tous les acteurs vulnérables. y compris ceux qui pensent à court terme, tirer profit de la situation, en affaiblissant l'État, en contournant les règles et en privilégiant des logiques de survie personnelle, ils sapent progressivement les deux seuls fondements capables d'assurer leur sécurité durable, la légitimité et la stabilité. Sans légitimité, le pouvoir devient contesté. Sans stabilité, il devient précaire. Ainsi, ce qui apparaît comme une stratégie de protection individuelle se transforme, à terme, en une dynamique d'insécurité généralisée. Alors, que faire ? La réponse ne peut pas être simplement morale. Il suffit pas de dire aux dirigeants « soyez vertueux », il faut changer le système, créer un environnement où servir l'intérêt général devient plus rentable, plus sûr, plus durable. Cela passe par trois piliers essentiels. D'abord, l'inclusion réelle. Pas seulement des discours, mais une distribution équitable des services, de la justice et de la protection. Ensuite, l'intégrité électorale, des règles claires et transparentes, où perdre une élection ne signifie pas être détruit. Enfin, l'excellence administrative. Un État professionnel capable de fonctionner sans dépendre de relations personnelles. En résumé, il faut passer d'un état de survie à un état de service. Et maintenant, la vraie question. Comment savoir si les dirigeants ont choisi la nation, pas par des discours, mais par des actes ? Accepter des élections réellement compétitives, réduire les privilèges du pouvoir, rendre transparent le financement politique, laisser la justice fonctionner, même contre ses alliés, gérer les ressources naturelles avec transparence et surtout accepter de perdre. Car une démocratie véritable repose sur un principe fondamental, perdre une élection ne doit jamais signifier disparaître du jeu politique. Au fond, la question est directe, presque implacable. Les dirigeants congolais sont-ils prêts à accepter des règles qui peuvent réellement les conduire à perdre le pouvoir ? Si la réponse est oui, alors la nation pourra être véritablement préservée. Dans le cas contraire, les acteurs continueront à privilégier leur propre sauvegarde. Or, dans un état fragile, l'histoire est sans équivoque. Lorsque chacun cherche à se protéger individuellement, c'est l'ensemble de la nation qui s'enfonce progressivement. Merci, chers auditeurs et auditrices, pour votre écoute et votre attention. À très bientôt pour un prochain épisode consacré aux grandes questions de l'économie politique.